Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de vous être connectés pour ce webinaire organisé par l'Académie sur effectivement ce sujet de la mise en place de France Travail. Donc on va au cours de cette présentation vous détailler les grandes lignes du rapport qui a été remis la semaine dernière au ministre, donc rapport rendu par Thibault Juilly, qui était en charge effectivement de la mission de préfiguration. Et une des raisons effectivement pour lesquelles on a souhaité très rapidement pouvoir partager avec vous les conclusions de ce rapport, c'est que justement, il s'agit d'un rapport. Et c'est un rapport qui, à ce stade, ne lie pas le gouvernement, et d'ailleurs le ministère du Travail l'a clairement exprimé lors de la remise du rapport. Ça signifie très concrètement qu'on est encore dans une phase d'arbitrage sur ce que sera France Travail, même si le rapport, vous le verrez, rentre pas mal dans le détail, et il est d'ailleurs relativement consistant en taille. Mais c'est très important qu'on puisse partager avec vous déjà ces premiers éléments, d'abord pour vous informer, évidemment, mais surtout pour que vous nous fassiez des remontées, puisque on le détaillera, faisant suite à ce rapport, il y aura ensuite évidemment des arbitrages au niveau du gouvernement, et il y aura ensuite une phase de transposition législative, dans a priori le projet de loi plein emploi qui devrait venir avant l'été. Et donc vous voyez bien qu'on est dans une phase un peu critique où il faut que du côté du MEDEF on puisse évidemment exprimer soit si on est en soutien de certaines mesures, soit si à l'inverse on a des réserves. Et deuxième raison pour laquelle on a aussi souhaité pouvoir très rapidement organiser ce webinaire, c'est que, et d'ailleurs ça figure sur la slide d'introduction, on parle vraiment d'opportunités pour les entreprises, parce que c'est très important d'avoir ça en tête. La mise en place de France Travail, ça ne doit pas être régi par une logique administrative, de structure, voilà, c'est véritablement, ça doit être un outil au service, évidemment, des demandeurs d'emploi, c'est une évidence, mais aussi au service des entreprises. Et on sait qu'en ce moment, elles font face à des difficultés de recrutement pour certaines d'entre elles très importantes. Et donc, on doit toujours avoir à l'esprit cette logique de service rendu et donc évaluer les premières propositions à l'aune de cette logique de service rendu. Alors, bien évidemment, il y aura des sujets de gouvernance, il y aura aussi des sujets de financement, on les exposera. Mais voilà, c'était déjà pour faire un peu une courte introduction et une mise en contexte de l'organisation de ce webinaire. Et du coup, je vais laisser la parole aux différents membres de l'équipe pour vous présenter à la fois le contexte, le contenu du rapport et les prochaines étapes.
Merci France et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on vous propose d'organiser ce webinaire en trois temps. Il nous a semblé utile d'abord de revenir sur le contexte et les objectifs affichés par le gouvernement et la mission de préfiguration. Un temps évidemment qui sera le temps principal de ce webinaire, qui est la présentation de ce qu'il faut retenir, de ce qu'on pense qu'il est utile de retenir du rapport de France sur France Travail. Et puis en conclusion très rapide, les prochaines échéances, pardon. En plus de ce que tu viens d'évoquer, France, effectivement, sur le projet de loi plein emploi attendu avant l'été. Je vous propose donc de passer directement au premier point sur le contexte. Il est utile de rappeler que la mise en place de l'opérateur France Travail est avant tout une transformation de Pôle emploi, mais pas que. C'est une promesse de la dernière campagne du président Macron pour atteindre le plein emploi, et ça vient finalement, d'ici la fin du quinquennat, ça c'est l'objectif affiché, et ça vient finalement en complément des autres réformes, notamment de la réforme de l'indemnisation du chômage. L'idée est bien d'être sur deux jambes, si j'ose dire, une jambe accompagnement et une jambe incitation au retour à l'emploi. Une mission donc dans cet objectif a été confiée à Thibaut Guiluy, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, fin septembre 2022 par la Première ministre et le ministre du Travail, afin qu'il puisse formuler des propositions pour la mise en place de cette nouvelle organisation et du nouvel opérateur. Les priorités affichées dès le départ de cette mission de préfiguration, c'était le renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi, avec un focus important sur les bénéficiaires du RSA, mais nous y reviendrons par la suite, et évidemment un renforcement de la formation des demandeurs d'emploi, la remise à plat de l'offre de service du service public de l'emploi en direction des entreprises, la redéfinition de la gouvernance et du pilotage de l'écosystème, et du coup aussi, et on y reviendra, une remise à plat, alors une remise à plat, un renforcement des moyens plutôt, et c'est un des points de vigilance qu'on développera ensuite. Et puis, pour parvenir à tout ça, une consolidation du système d'information et la mise en place d'outils numériques communs à tous les acteurs de l'écosystème France Travail, enfin du service public de l'emploi, pour identifier notamment toutes les personnes en difficulté, mais aussi les entreprises qui recrutent et qui ont des besoins en compétences particulières. Dès le début, Thibaut Guiluy et la mission ont fixé des grands principes, si j'ose dire. France Travail, ce devait être une mutation de l'opérateur Pôle emploi, dans une logique de partage de données entre acteurs, avec une mutualisation de services entre partenaires, mais ça ne devait pas être, et vous jugerez par la suite si l'objectif est atteint ou pas. Petit spoiler, je ne suis pas sûr. ça ne devait pas être initialement une superstructure supplémentaire. C'est là où nous avons quelques doutes, ni de projet de fusion. Et là, pour le coup, à ce stade, ça n'est effectivement pas le cas. Ni une régionalisation ou une départementalisation du service public de l'emploi. Là aussi, a priori, mais les choses devront se vérifier dans la mise en œuvre, nous n'y sommes pas non plus. Très rapidement, une concertation qui a duré 7 mois, des comités des parties prenantes très larges, incluant partenaires sociaux, collectivités locales, représentants des opérateurs, représentants du ministère du Travail et de ses services, 9 groupes de travail thématiques qu'on a en gros qui sont organisés autour de 4 grands pôles sur les services aux bénéficiaires, hors entreprise, les services aux employeurs, les services aux conseillers, les moyens notamment de formation pour engager une forme de culture commune de tous les intervenants dans l'écosystème France Travail, et puis 3 groupes de travail sur le pilotage et la structure, gouvernance, stratégie numérique, communication, etc. Nous avons évidemment participé activement alors peut-être pas à tous les groupes de travail, mais en tout cas sur les principaux, ceux qui nous semblaient les plus importants, de mémoire au moins 5 groupes de travail, et évidemment à tous les comités des parties prenantes, et la position du MEDEF que je vais les propositions et les points de vigilance du MEDEF dans le cadre de la mission que je vais détailler juste après ont été préparés, élaborés dans le cadre d'un groupe de travail ad hoc présidé par Karel Henry, qui est donc la coprésidente de la commission DIMAT, en lien avec le comité inclusion par l'emploi et la commission éducation formation sur les sujets qui les concernent, mais en fait tous les sujets sont à cheval sur nos trois champs sur ce sujet-là. Et donc très rapidement, je passe un peu vite sur ces slides de contexte, mais ça nous semble vraiment important que vous l'ayez en tête. Quelles ont été les priorités, nos priorités pour le MEDEF dans le cadre de ces travaux? Alors, globalement, on salue et on le redira ensuite une ambition louable et des objectifs qu'on partage. Pour le dire rapidement, l'objectif c'est la réduction des tensions de recrutement sur le marché du travail et elles sont particulièrement prégnantes encore aujourd'hui. Mais nous avions des points de vigilance nombreux et on les détaille ensuite, points de vigilance slash proposition, sur les aspects diagnostic orientation. Une logique de guichet unique qui était affichée dès le départ, qu'on a trouvé plutôt salutaire, mais avec un point de vigilance fort, que ça ne doit pas être un guichet obligatoire, notamment pour les entreprises. Une logique de diagnostic et d'orientation qui doivent éviter une segmentation trop poussée des publics et des priorités, c'est-à-dire entre, pour le dire clairement, bénéficiaires du RSA et ou personnes très éloignées de l'emploi et personnes plus autonomes. Un diagnostic qu'on souhaite orienter dès le début vers l'emploi, avec un profilage des compétences harmonisées entre opérateurs, avec une grille de lecture idéalement commune, et le développement d'un sourcing plus efficace pour les entreprises afin d'identifier les publics aujourd'hui non inscrits, notamment qui constituent des viviers de recrutement peut-être pas suffisamment exploités aujourd'hui. Sur les aspects accompagnement, un objectif clair, c'est le retour rapide à l'emploi, dans une logique individuelle et collective pour nous. On y reviendra aussi, le volume d'activité des bénéficiaires du RSA ne doit être orienté vers l'emploi et ne doit pas être simplement occupationnel. Mais on détaillera, Odile détaillera ensuite ce sujet-là au vu des propositions du rapport. Un accompagnement plus renforcé pour les plus éloignés et le maintien du recours aux opérateurs privés qui nous semblait aussi très important dans une logique de concurrence saine et de challenge aussi des opérateurs publics du service public de l'emploi. Sur les aspects formation, trois grands objectifs. Définir une stratégie quadripartite régionale et des priorités de réponse aux besoins des compétences des entreprises, en lien évidemment avec les branches professionnelles. Réduire les délais d'entrée en formation et privilégier des formations ayant un engagement réciproque demandeur d'emploi entreprise, pour le dire clairement, des formations qui conduisent à une embauche. Et introduire une vraie culture d'évaluation. Alors c'est très vrai sur la formation, mais c'est aussi très vrai sur tout le reste des enjeux. Une vraie culture de l'évaluation des dispositifs. Dans une logique de plan de progrès pour améliorer la gestion des programmes de formation, mais comme je le disais, aussi sur les autres aspects de l'offre de service. Sur l'offre de service employeur, nos priorités, c'était de chercher à renforcer la capacité des opérateurs de France Travail à cibler les TPE et les PME et être des interlocuteurs crédibles. On souhaitait vraiment simplifier l'offre de service et la rendre plus lisible. En adaptant évidemment territorialement cette offre de service aux besoins, en l'adaptant aux besoins des entreprises sur les bassins d'emploi, et en donnant là aussi une place plus importante aux opérateurs privés. Et enfin, sur la gouvernance, le pilotage et le financement, nos priorités dès le début de cette concertation et encore aujourd'hui, c'est d'une part de bien dissocier ce qui relève de la gouvernance des programmes opérationnels, ce qui relève de la gouvernance plus stratégique et politique, en rappelant évidemment que les entreprises ont un rôle majeur aujourd'hui dans le financement des opérateurs du service public de l'emploi, dont principalement Pôle emploi. Et c'est le point, ça fait lien avec le point qui suit, puisqu'on souhaite vraiment clarifier les modalités de financement et les niveaux de responsabilité. Et je rappelle à ce titre qu'aujourd'hui, les entreprises, via leur cotisation assurance chômage, financent la moitié du budget de fonctionnement annuel de Pôle emploi. Alors, la question, c'est qu'en sera-t-il demain dans France Travail? On a quelques débuts de réponse, pas toutes, évidemment. Enfin, malheureusement. Et puis, je le disais tout à l'heure, une logique de plan de progrès et d'évaluation qu'on souhaite vraiment voir irriguer l'ensemble des offres de services du futur opérateur et du futur ensemble France Travail. Voilà, très rapidement, j'ai été un peu vite, mais l'idée est plutôt qu'on passe du temps sur la présentation du rapport et nos premières clés de lecture. Donc s'il n'y a pas de questions sur ce premier point, je vous propose de passer donc à la présentation du rapport qu'on va faire à plusieurs voix. Et l'idée, c'est qu'à chaque grand point présenté, on puisse vous dire ce qu'on considère être important de retenir et nos points de vigilance et nos premiers éléments de lecture sur les propositions formulées dans le rapport. Une présentation générale, le rapport est articulé autour de 10 enjeux clés et 99 propositions, et 272 pages accessoirement. Donc, pour la logique de simplification, je vous laisserai juge. Blague à part, les principaux éléments à retenir sur ces enjeux, c'est une logique d'inscription de tous les demandeurs d'emploi, y compris les bénéficiaires du RSA, à France Travail, un parcours d'accompagnement dit sans couture, avec un référent unique tout au long du parcours. une offre de services entreprise plus lisible en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire, y compris les OPCO et les branches, via entre autres une généralisation de ce qu'on appelle les viviers de recrutement pour les secteurs en tension, qui est une nouvelle approche développée par Pôle emploi ces derniers mois face aux problématiques importantes de pénurie de main-d'œuvre. Un accès à la formation plus ciblé sur les publics les plus éloignés de l'emploi en lien direct avec les besoins des entreprises, plus une pérennisation du plan d'investissement dans les compétences à travers de nouveaux contrats pactes entre l'État et les régions. C'était annoncé dès le début, mais c'est quand même confirmé, pas de fusion des structures dans un opérateur unique. Notamment, alors l'APEC est un petit peu à part, mais ça vit surtout Cap Emploi et les missions locales. L'APEC reste un opérateur partenaire, vous verrez ensuite le schéma d'organisation. Cap Emploi et les missions locales sont peut-être plus intégrées dans l'ensemble France Travail, mais ne sont pas fusionnées avec l'opérateur France Travail ex-Pôle Emploi. Et des moyens communs mis à disposition, qui devront être mis à disposition de l'ensemble de l'écosystème, système d'information, et notamment un programme d'académie France Travail qui vise à proposer une formation socle de tous les conseillers. Vraiment un point important qui, je pense, fait écho à nos positions qu'on a tenues tout au long de la concertation. La logique de pilotage par les résultats est vraiment affirmée dans le rapport. Alors, elle mérite sans doute d'être encore renforcée et en tout cas précisée, mais c'est inscrit clairement et c'est valable pour l'ensemble des sujets, avec des indicateurs communs à tous les opérateurs. Et on y reviendra, à une logique d'indicateurs à tous les niveaux de gouvernance, du plus local au national. Et donc une nouvelle gouvernance, un comité, alors qui là aussi n'est pas exactement dans une logique de simplification, un comité national France Travail qui réunirait États, partenaires sociaux, collectivités, des comités régionaux et des comités départementaux et locaux axés sur des enjeux plus opérationnels. Voilà, mais on y reviendra là aussi dans la présentation. Un rapide coup d'œil à l'organisation de l'ensemble, c'est ce que je viens de décrire juste avant. Donc, on parle vraiment de réseau. Enfin, il faut vraiment distinguer ce que j'appelle depuis le début de la présentation écosystème ou réseau France Travail de l'opérateur France Travail. France Travail opérateur, c'est Pôle Emploi qui sera à travers la loi à venir cet été transformé, renommé comme tel, et qui est le principal opérateur du réseau, de l'écosystème France Travail, avec donc un niveau de gouvernance stratégique, politique et financière qui réunit, je le disais, les acteurs de l'État, les collectivités et les partenaires sociaux. Reste à préciser, et c'est un de nos points d'inquiétude, le poids de chacune de ces représentations dans ce niveau de gouvernance stratégique et politique. Les opérateurs France Travail, Pôle Emploi, France Travail Jeunes, qui est finalement la transformation des missions locales, et France Travail Handicap, qui est la transformation des Cap Emploi, qui, comme vous le savez peut-être, sont déjà un peu plus intégrés au sein de Pôle Emploi, ou en tout cas, les liens ont été renforcés ces dernières années entre les Cap Emploi et Pôle Emploi, avec des résultats plutôt plutôt satisfaisant depuis les trois dernières années. Et ensuite, des réseaux de partenaires à travers des opérateurs publics et des organismes paritaires, dont l'AFPA, l'APEC, les OPCO, la GFIP, etc. Et des associations et autres acteurs privés qui seront soit prestataires, soit là aussi partenaires des opérateurs France Travail. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être du coup de faire un focus sur chacun des grands items et des grandes priorités ou des grands sujets d'organisation de ce nouvel ensemble. Et je passe donc la parole à Odile sur ce premier sujet.
Merci beaucoup, Pierre-Mathieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je ne vous vois pas, je l'imagine. Alors effectivement, peut-être vous faire quelques points des propositions les plus importantes sur ce volet diagnostic, orientation et accompagnement. C'est un enjeu extrêmement fort pour l'efficacité du système. Donc, le premier principe, c'est l'inscription à France Travail de toutes les personnes sans emploi, et notamment celles qui sont les plus éloignées de l'emploi. On parle notamment des bénéficiaires du RSA, on peut parler des jeunes aussi, ou des demandeurs d'emploi de longue et très longue durée via un portail unique. Alors, vous savez, ça, c'est un enjeu tout à fait important dans le contexte qu'a rappelé Pierre Mathieu de difficultés de recrutement et donc de recherche de mobiliser tous les viviers de main-d'œuvre disponibles. Il faut avoir en tête aussi que actuellement le taux d'emploi des bénéficiaires du RSA est extrêmement faible et à peu près entre 15 et 20% des bénéficiaires du RSA retrouvent un emploi dans le système actuel. Donc on a un vrai enjeu là. Le deuxième, c'est la mise en place d'un diagnostic collectif global de l'ensemble des publics sur la base d'un référentiel commun, un lien systématique entre l'inscription à France Travail et la demande de RSA, la mise en place d'un principe qui est un contrat d'engagement réciproque entre l'opérateur et le bénéficiaire, avec un focus là aussi sur les bénéficiaires du RSA, avec le principe de 15 à 20 heures d'activité, on va y revenir. Le principe aussi d'un accompagnement pour tous, mais avec une intensité différente selon la situation des personnes, donc avec des parcours plus intensifs pour notamment les bénéficiaires du RSA, et un accompagnement un peu moins intensif, voire largement basé sur des outils digitaux pour les demandeurs d'emploi qui sont les plus proches de l'emploi. Ça, c'est vraiment un sujet là aussi extrêmement important, parce que l'accompagnement, c'est clé pour l'efficacité du retour à l'emploi, puisque c'est vraiment notre objectif qu'avait rappelé Pierre Mathieu tout à l'heure. En fait, l'enjeu dans toute cette réforme, c'est quand même une meilleure dynamique du marché du travail, une efficacité du retour à l'emploi. Donc, la mise en place également d'un référent unique d'accompagnement, et enfin, le maintien du recours aux opérateurs privés de placement sur certains segments, et là c'était l'une de nos demandes fortes dans nos contributions. Alors quelques réactions sur ce volet-là de ce que l'on en pense. D'abord, même si le public des personnes les plus éloignées d'emploi est un enjeu, c'est extrêmement important, néanmoins il faut s'assurer que ça ne se fait pas au détriment des personnes qui sont un peu plus autonomes, voire plus autonomes sur le marché de l'emploi, mais qui nécessitent néanmoins un accompagnement. Et donc, finalement, cette ligne de crête-là est un point d'attention sur lequel on portera nos efforts, parce que il faut effectivement que les entreprises puissent trouver les viviers de recrutement dont elles ont besoin, et notamment des personnes qui sont pas trop éloignées de l'emploi. Deuxièmement, le dispositif des 15-20 heures d'accompagnement dans l'emploi. Alors ça, c'est un sujet qui fait beaucoup polémique, tant du côté des organisations syndicales que du côté des associations. Néanmoins, nous, il nous semble que c'est un sujet extrêmement important. Et pour qu'il marche, pour qu'il soit vraiment efficace, il faut que ces 15-20 heures soient vraiment orientées emploi, préparation à l'emploi, et non pas qu'ils dévient vers des dispositifs de type occupationnel que l'on peut craindre. Donc là aussi, c'est un sujet sur lequel il conviendra d'être extrêmement vigilant pour le retour à l'emploi de ces personnes.
Merci Odile. Je vois qu'il y a déjà des questions sur ces sujets, donc peut-être que pour éviter un long tunnel de présentation, on peut faire déjà une petite pause et répondre à ces premières questions. Une première question sur la question pourquoi n'y a-t-il pas eu de fusion entre l'APEC, Cap Emploi, les missions locales et Pôle Emploi dans cet ensemble France Travail. Alors, bonne question. Réponse pas évidente. Il y a des raisons politiques, évidemment, notamment pour les missions locales qui sont quand même logées, je parle sous le contrôle d'Odile notamment, mais logées pour la plupart abritées par des communes ou des collectivités territoriales. Néanmoins, sur les missions locales et sur les Cap Emploi, c'est quand même là où on fait un pas supplémentaire d'intégration. La grande nouveauté sur ce sujet-là, et ça répond à une autre question qui est posée sur la capacité à identifier les NEET qui sont justement hors radar, Le fait d'intégrer et d'avoir un système d'information commun est déjà un premier pas. Mais Odile, si tu veux compléter. Alors,
Effectivement, sur la question des NIT, d'ailleurs, peut-être un petit point, les personnes qui sont ni en emploi ni en formation, c'est une myriade de publics. Et ce ne sont pas forcément des gens qui sont décrochés durablement dans l'emploi. Ça peut être à un moment donné, et donc un grand nombre sont quand même déjà suivis par les missions locales. Il y a effectivement le sujet des décrocheurs hors radar, et ça, effectivement, c'est un sujet sur lequel une attention est portée et sur lequel il faudra qu'on soit assez assez vigilant. Justement pour qu'ils ne soient pas les oubliés de ce dispositif.
Et ensuite, pour répondre sur la PEC, c'était aussi un des points de vigilance qu'on avait. L'idée de trouver le bon équilibre entre meilleure coordination, meilleure intégration et préservation des spécificités d'offres de services, d'accompagnement, de public aussi, parce que voilà, le service qui est apporté notamment par la PEC envers les publics cadres est quand même un tout petit peu différent et déjà il est mis en œuvre et piloté par les partenaires sociaux avec un financement salarié et entreprise et il est un tout petit peu différent de ce qui peut être proposé par Pôle emploi, étant par ailleurs entendu que l'APEC s'adresse aux demandeurs d'emploi, mais pas seulement, également aux jeunes diplômés et aux cadres en activité. Voilà, donc préservation quand même de certains particularismes utile et pas juste, je parle pas là juste de protection de précaré entre guillemets, mais voilà, il y avait quand même une logique de intéressante et pertinente à préserver certaines spécificités. Et je crois qu'il y a une autre question sur le, enfin qu'en deviendra-t-il des personnes en situation de handicap qui perçoivent le RSA et qui sont en incapacité de travail. Ils rentreront dans le dispositif. Après, évidemment, s'il y a des particularités de situation, l'idée est pas de remettre absolument au travail de force des gens qui sont dans une incapacité totale. Enfin, on verra concrètement comment tout cela sera déployé, mais évidemment, il y aurait une logique d'adaptation en fonction des situations personnelles de chacun. Et il y a une question, et ce qui fait le lien, du coup, et après je te laisse la parole, Odile, tu pourras y répondre, c'est le dispositif 15-20 heures d'accompagnement. Est-ce que c'est la même chose que l'accompagnement du siège, sur lequel il faut être vigilant? Et dernière question, toujours sur ce sujet, le RSA à 20 heures par mois ne va-t-il pas se substituer au temps partiel avec une main-d'œuvre moins chère?
Alors, peut-être que là-dessus je peux répondre, en fait, pour éviter qu'il y ait une confusion. 15-20 heures d'activité, c'est pas 15-20 heures d'activité professionnelle. C'est 15-20 heures d'accompagnement pour lever les freins à l'emploi pour les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, pour les remédier, faire de la remédiation, pour leur permettre de préciser un projet professionnel et in fine leur permettre de retrouver, d'identifier des métiers sur lesquels ils peuvent aller et se réinsérer dans l'emploi via notamment une formation. Donc on n'est pas du tout sur une substitution au temps partiel, parce que quand on regarde les premiers dans le rapport, les premiers, le cahier des charges des 15-20 heures d'accompagnement, justement, nous, notre crainte, c'est que ça soit beaucoup de la remédiation et très peu de l'accompagnement pour définir son projet professionnel. Donc, on n'est pas sur ce sujet-là. Et comme vous le dites justement, on est sur un dispositif qui s'inspire très fortement de l'accompagnement qui est mis en place dans le cadre du contrat engagement jeune, avec les limites soulignées. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait dit lors de la mise en place du CEJ, c'est que justement ces 15-20 heures d'accompagnement devaient permettre des immersions, des découvertes de métiers, la définition d'un projet professionnel en fonction des besoins du bassin d'emploi et, in fine, le retour à l'emploi assez rapide. Et donc, justement, notre sujet, c'est bien que ce lien vers l'emploi soit mis en place le plus tôt possible et qu'il n'y ait plus cette séparation entre accompagnement social et accompagnement professionnel. C'est ça l'enjeu, en fait.
Merci Odile, et juste pour compléter, c'est un sujet qui a été évoqué hier en conseil d'administration de Pôle emploi, et la direction générale et d'autres acteurs rappelaient quand même qu'on avait justement assez peu de visibilité sur l'accompagnement qui était proposé aux bénéficiaires du RSA aujourd'hui dans les départements. Et du coup, pour aller vraiment dans ton sens, c'est que je pense que ce qui est proposé là et vise justement à mettre en place un réel accompagnement qui n'a pas forcément lieu dans tous les territoires aujourd'hui. On passe peut-être au sujet formation.
Bonjour à
intervenir, s'il vous plaît.
Ah, pardon, il y a une question ?
J'ai plutôt, alors Françoise Reynaud, est-ce que je peux intervenir ? Donc MEDEF Vendée, mais aussi présidente de la mission locale Pays Lyonnais et engagée au niveau de l'UNML. Donc juste quelques éléments à verser à la réflexion. Pourquoi il n'y a pas eu de fusion ? Tout simplement parce que le réseau s'est mobilisé pour qu'il n'y en ait pas et parce que ça coûtait très très cher à l'État de fusionner les missions locales comme Cap Emploi. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, c'est que les missions locales ont 40 ans d'âge. Elles répondent complètement à l'intégration des jeunes dans l'emploi. Mais je voudrais quand même signaler un point essentiel. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent s'inscrire dans les missions locales, ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément employables, comme d'ailleurs les bénéficiaires du RSA pour beaucoup d'entre eux. Ce sont des jeunes qui ont des freins à lever avant de les mettre en emploi qui sont importants. Et donc, je peux vous assurer qu'au niveau du contrat d'engagement jeune, les 15-20 heures ne sont pas des activités occupationnelles, comme il a été dit tout à l'heure, que c'est vraiment des activités où on les redynamise pour aller vers l'emploi, y compris sur des mises en situation de travail dans les entreprises. C'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup développé avec le secteur économique. D'ailleurs, le secteur économique est représenté dans nos conseils d'administration. Le MEDEF est représenté dans mon conseil d'administration, par exemple. Que vous voyez que c'est une réflexion globale, mais qu'aujourd'hui, les 15-20 heures ont toute leur importance, surtout dans la levée des freins, parce que ces publics-là ne peuvent pas être employables directement comme ça dans les entreprises. Voilà, c'était juste quelques éléments de réflexion que je voulais porter à votre connaissance.
Merci beaucoup. Oui, effectivement, enfin, toutes les missions locales ne sont pas aussi performantes que la vôtre, malheureusement. Il y a une grande diversité quand même d'actions. Maintenant, je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, les jeunes qui rentrent en mission locale ont beaucoup de freins, de la même façon que les bénéficiaires du RSA ont beaucoup de freins. Mais justement, l'objectif, c'est vraiment de faire ce lien avec les besoins du territoire et la construction du projet professionnel. Je n'ai rien dit d'autre. Mais en tout cas, votre expérience est extrêmement précieuse pour alimenter nos travaux.
Et juste avant de donner la parole, Florence, il y a d'autres questions sur l'échelle territoriale des réponses apportées. On y reviendra peut-être dans la suite. Donc voilà, j'ai bien noté les questions. Florence, c'est à toi.
Merci. Donc bonjour à tous, à toutes et à tous. Sur le volet formation professionnelle ne se détache pas forcément, évidemment plutôt du parcours d'insertion, de réinsertion pour les demandeurs d'emploi. L'objectif, juste un rappel en introduction, c'est bien, dans le rapport en tout cas, de rendre plus efficace l'effort de formation au service des publics prioritaires, on vient d'en parler, dont les jeunes. Et surtout, et ça c'est bien plus nouveau, on va dire, que ce que faisait Pôle emploi jusqu'à présent, mieux en adéquation avec les besoins des entreprises. Ça c'est un axe important sur lequel on va revenir, je pense, dans la démonstration de ce matin. Cet objectif se traduit en quatre axes. Le premier qui conforte la contractualisation entre l'État et les régions à travers le plan d'investissement dans les compétences, dont le PIC pour 2023 passe à 800 millions d'euros contre 1,5 milliard les années précédentes, sur le quinquennat précédent. Donc l'objectif est bien de faire mieux avec moins. Et c'est la raison pour laquelle une mission des inspecteurs des affaires sociales et des inspecteurs des finances pour observer l'impact et l'utilisation des PIC ou pactes régionaux du précédent quinquennat. Donc ça, c'est important à observer, dont les conclusions nous seront importantes à observer. Ça se traduira notamment par voilà, l'ensemble des actions de formation individuelle, y compris les POE, hein, préparation opérationnelle à l'emploi, qui seront mises en œuvre par l'opérateur France Travail, donc Pôle emploi, qui sera donc intégré dans cette contractualisation pour plus de lisibilité, évidemment. Deuxième axe, davantage de formation ciblée sur les publics ou en direction des publics qui en ont le plus besoin. On en a parlé, les jeunes, mais plus globalement les personnes les moins qualifiées, les seniors et les personnes en situation de handicap. À ce sujet, pour Pôle emploi, ça prendra aussi la forme d'une amélioration du diagnostic des besoins en compétences sur les territoires et la levée des freins à l'entrée et au suivi de la formation tout au long du parcours. Et également l'affirmation de la capacité de l'État à intervenir pour lutter contre l'illettrisme et l'électronisme, et également développer la formation ouverte à distance. Troisième axe, assurer une meilleure adéquation de l'offre de formation par rapport aux besoins des entreprises et des filières en tension. Donc là, il y aura, en tout cas, d'annoncer dans le rapport une concertation avec les OPCO avant la passation des marchés. Et quatrième axe, simplifier le système global, hein, dans le processus d'achat ou de repérage des besoins en formation, et favoriser l'accès à la formation des personnes, donc des demandeurs d'emploi, hein, et des professionnels, ce qui est important aussi pour bien affiner, ajuster l'adéquation entre les besoins et l'entrée en formation. Et notamment, ça se traduira par un catalogue unifié de l'offre de formation. Ce qu'en pense le MEDEF, globalement, bien sûr, la réaffirmation du lien avec les besoins des entreprises va dans le bon sens, puisque c'est ce que nous avons porté, comme Pierre-Mathieu l'a dit en introduction. Quelques aspects à préciser dans un deuxième temps, notamment sur les POEC, les préparations opérationnelles à l'emploi collective, sur lesquelles le rapport ne précise pas grand-chose, et donc ni les modalités d'association des branches et des territoires dans les processus d'achat de formation. Donc on sera vigilant sur ce point. Sur le devenir du PIC, je vous le disais, certes, la contractualisation du précédent quinquennat a montré un des forces, mais aussi pas mal de faiblesses. Donc la mission IGAS-IGF va sans doute nous les mettre en lumière. Donc on recherchera absolument un gage d'efficacité et d'efficience, notamment pour répondre aux besoins des entreprises. Une nouveauté pour ceux qui ont peut-être suivi le référentiel, le répertoire commun des compétences et des métiers qui se rajeunit, qui prend la forme d'un répertoire ROM 4.0 pour construire un langage commun, notamment pour définir ou mieux définir et les métiers et donc les besoins en compétences et les formations en lien. Donc Pôle emploi s'est lancé dans cette rénovation du répertoire code ROM 4.0 qui va permettre cette meilleure lecture. Donc attention à l'association des partenaires sociaux et des branches professionnelles dans le pilotage et l'architecture de ce code ROM. Et puis un regret que le sujet des transitions professionnelles n'ait pas été traité dans le rapport ni dans les groupes de travail d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il s'agira de les traiter ailleurs et autrement, parce que c'est un sujet éminemment important dans l'équation des sujets emploi-formation.
Peut-être avant de passer au sujet entreprise, quelques réactions, quelques questions sur le sujet formation des demandeurs d'emploi. Un commentaire sur la nécessité de maintenir et de bien financer les POEI et les POEC. Donc, comme tu viens de le dire, Florence, je crois que c'est un point de vigilance assez fort de notre côté. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Ou...
Bon, non, pas spécialement, on est raccord.
Une question plus particulière sur la possibilité d'intégrer par les centres de formation des demandeurs d'emploi plus rapidement et de fluidifier le circuit de validation des projets professionnels des demandeurs d'emploi. pour permettre à ces personnes d'intégrer des formations. Je ne sais pas si tu veux réagir, mais je crois que ça, c'est l'objectif justement du parcours sans couture, c'est d'aller le plus vite possible.
Ben, Odile en a parlé dans le diagnostic. Plus ou meilleur sera le diagnostic, y compris des compétences à l'entrée du parcours, meilleur sera l'adéquation de la formation et des objectifs entre guillemets de résultats, que ce soit dans le métier pour lequel le demandeur d'emploi se forme ou les métiers qui gravitent autour des métiers initiaux. Oui.
Je veux bien aussi apporter un élément complémentaire par rapport à cette question et la réponse de Florence. Je pense que la formation, évidemment, ça peut être un outil pour remettre à l'emploi un certain nombre de demandeurs d'emploi, mais il faut toujours être vigilant à un équilibre, c'est-à-dire que parfois la formation n'est pas forcément la bonne réponse, et en tout cas, il est toujours absolument indispensable d'avoir posé le bon diagnostic, parce qu'en réalité, si on regarde aujourd'hui le taux d'insertion professionnelle post-formation du côté des bénéficiaires, enfin des demandeurs d'emploi. La réalité, c'est que, alors d'abord, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres, et puis il n'est pas totalement satisfaisant, et sans doute parce que justement, on n'a pas forcément posé le bon diagnostic au départ, et du coup, il peut y avoir une adéquation entre le parcours de formation du demandeur d'emploi et puis la réalité de ses aspirations professionnelles, et du coup, un échec à la sortie. Donc, je pense qu'il faut toujours faire le bon partage des choses entre la nécessité effectivement d'être réactif, et il est sûr qu'il faut éviter de perdre du temps, et de l'autre, peut-être une réponse trop rapide qui consiste à tout de suite mettre en formation le demandeur d'emploi. Alors d'abord, évidemment, ça a un coût, et puis surtout, ça peut conduire aussi à orienter le demandeur d'emploi vers des formations qui, en réalité, ne sont pas nécessairement adaptées à la fois aux besoins du territoire et puis aussi à ce qu'il recherche.
Alors je prends deux autres réactions dans le chat avant de passer au point suivant. Juste revenir sur les PEC, effectivement, on lit la même chose que vous, c'est-à-dire que le rapport anticipe la suppression des PEC. Peut-être plus précisément, c'est pas tellement une suppression des PEC qu'un remodelage des différents dispositifs avec une fusion, désolé pour le jargon, mais des AFPR et des PEC. Pour le dire très bien. Non, PEC, non ? Ah non, j'ai une bêtise. Oui, pardon. PEI et AFPR. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Attention. Je ne sais pas si on peut. Merci, Gauthier. Sur les PEC et PEI, enfin, ce qui compte pour nous, c'est que les besoins des entreprises soient bien pris en compte et que les branches et les OPCO soient associés au bon niveau.
C'est exactement ça. Et c'est ce qui reste à préciser, justement. Et le rapport va pas très loin dans le processus. On y sera très, très vigilant pour que, au plus près des territoires, encore une fois, les branches et les entreprises soient le mieux associées possible. Mais tout ça, il reste à définir et à préciser.
Et je crois qu'il y a une autre question sur le PIC qui reste là aussi, donc cahier des charges. Le futur cahier des charges reste aussi à préciser. Et la question, c'est de veiller à ce que les fonds France Compétences vers le PIC ne servent vraiment qu'au financement des formations. Pas de remise à niveau, par exemple. Mais je crois qu'on partage et que ce sera un de nos points de vigilance dans la définition du futur, de la suite du PIC. On passe peut-être au service entreprise. Je passe la parole à Simon.
Merci Pierre-Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc s'agissant du service aux entreprises, le rapport de la mission de préfiguration met les besoins en compétences des entreprises assez clairement au centre de l'action de France Travail. Donc on peut saluer l'accent qui est mis sur ce sujet-là et la nécessité de faire monter en compétences l'ensemble des acteurs. Sur ce point, donc on vous a dressé très synthétiquement sur la slide ce que prévoit le rapport en ce sens. Et donc, c'est vrai que pendant les travaux dans le cadre de la concertation, le MEDEF a particulièrement insisté pour que soit pris en compte, et Pierre Malathieu l'a rappelé en introduction, pour que soit pris en compte dans la réforme à venir, donc sur l'offre de services entreprises, d'une part, la simplification de l'offre de service des opérateurs de l'écosystème France Travail et ses modalités de recours, avec une attention particulière peut-être plus poussée pour les PME-TPE, le développement et le renforcement d'une culture entreprise au sein des opérateurs France Travail, et notamment le principal, hein, donc Pôle emploi, qui sera rebaptisé en France Travail opérateur, et le recours aux opérateurs privés de placement qui répond à un point important soulevé lors des groupes de travail MEDEF sur le sujet de France Travail. Donc ce sont des éléments que l'on peut retrouver assez clairement dans les propositions ou plutôt les intentions du rapport, même si on restera bien évidemment très attentif sur la mise en œuvre concrète et sur ce qui sera retenu par le gouvernement sur cette thématique. Donc sur ce qu'en pense le MEDEF, donc je viens de le dire, hein, globalement, pour les entreprises, le rapport va dans le bon sens, même si on a quelques points de vigilance sur certaines propositions qui sont un peu plus concrètes, notamment à l'une des propositions qui est la proposition 72. Il faudra faire attention que France Travail ne devienne pas le job board unique, centralisé et obligatoire pour toutes les entreprises, puisqu'on considère qu'elles doivent pouvoir garder leur liberté en termes de ciblage pour leur sourcing et pour le choix de l'opérateur. Et ça a déjà été dit tout à l'heure, mais c'est d'autant plus justifié, puisque des opérateurs comme l'APEC, par exemple, ont une vraie spécificité en matière de qualification d'offres d'emploi et d'appui aux entreprises sur le sujet, et il ne faudrait pas que cela disparaisse au profit d'un portail unique et uniforme. Autre point de vigilance qu'on a pu déceler sur les propositions du rapport, c'est la mise en place, ce qui serait donc la mise en place d'un identifiant unique pour les entreprises, partagé avec d'autres administrations ou opérateurs publics, qui semble plutôt porteuse de simplification. On comprend que ça serait un peu une sorte de France Connect des entreprises, mais là encore, il faudra faire attention opérationnellement, puisque ça peut induire des risques sur le croisement de fichiers en termes éthiques, de protection des données, ou aussi en termes d'accentuation de contrôle sur les entreprises. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, le recours aux opérateurs privés, c'est une de nos demandes sur lesquelles on a particulièrement insisté. Donc on peut se satisfaire, même si on sera soucieux de la préservation de la logique d'innovation ou de challenge entre opérateurs privés et opérateurs publics, en encadrant pas trop strictement les cahiers des charges qui pourraient être établis. Et je sais pas si tu veux...
Merci Simon, non, pas de complément, pas de questions sur ce sujet à ce stade. Je vois d'autres questions, mais on y reviendra par la suite. Et du coup, finalement, un certain nombre de questions sur les indicateurs font un peu le lien avec le sujet de la gouvernance et du pilotage. Simon, je te laisse.
Oui, donc sur la gouvernance et le pilotage, donc on l'a vu précédemment sur la slide, le schéma global de la réforme, où l'on aurait donc une gouvernance envisagée autour de quatre niveaux, donc national, régional, départemental et local. Au niveau national, ça devrait se traduire par une instance présidée par le ministre du Travail, avec les partenaires sociaux et les collectivités, qui serait chargée de l'orientation stratégique, et même c'est plus large que les membres que je viens de citer, puisque ça serait une instance qui serait composée des actuels membres du comité des parties prenantes, c'est-à-dire une multitude d'acteurs, tout ça sous l'égide du ministre du Travail. La gouvernance actuelle de chaque opérateur, y compris pour l'emploi, ne serait pas modifiée. On comprend que les opérateurs donc hors Pôle emploi, notamment l'APEC ou encore la GFIP, devraient a priori s'inscrire dans une logique de conventionnement quand on lit entre les lignes, ressemblerait assez aux conventions d'objectifs et de gestion qui existent sur le champ de la sécurité sociale. Ensuite, au niveau territorial, tout cela serait décliné en trois niveaux, donc régional, départemental et local. Et au niveau régional, les partenaires sociaux seraient présents à travers donc ce qu'ils appellent le comité régional de France Travail, et qui s'appuierait pour l'essentiel sur les actuels CREFOP, dont la composition serait élargie à de nouveaux acteurs. Donc, pour le MEDEF, c'est un schéma qui peut avoir de bons côtés, puisqu'il est assez simple à appréhender, ce qui en termes de lisibilité peut avoir des avantages, mais la crainte et ce qu'il ressort, c'est que ça participe clairement à une certaine étatisation du service public de l'emploi, avec, comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que la présidence du comité national qui serait assurée par le ministre du Travail, ou encore le fait que les partenaires sociaux seraient noyés dans une multitude, avec une multitude d'acteurs dans les différents comités, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Et enfin, ce qu'on peut aussi peut-être reprocher au rapport, c'est l'articulation entre les différents niveaux de gouvernance qui n'est pas suffisamment explicitée. Donc ça, c'est pour l'aspect gouvernance. Et puis après, donc sur le pilotage, donc la volonté du MEDEF donc d'un pilotage par les résultats est bien repris dans le rapport, avec une mise en place d'indicateurs communs à tous les niveaux de gouvernance et communs entre opérateurs, au sein de ce qu'ils appellent le réseau France Travail. Maintenant, reste à savoir quels indicateurs seront retenus et comment ils seront retenus, et peut-être que Pierre-Mathieu peut me compléter sur cette question des indicateurs, mais voilà un peu ce qu'on peut penser en première approche sur le rapport sur ces deux sujets.
Merci Simon. Non, pas d'ajout à ce stade sur les indicateurs, ils devront évidemment être définis. Je répète encore une fois que c'est une demande très forte de notre part. L'idée est bien de mettre en tension de manière positive et constructive l'ensemble des acteurs de l'écosystème France Travail. Je crois que sur ce sujet, ça fait écho à certaines interventions dans le chat, dans la logique d'évaluation en continu, y compris notamment des organismes de formation. L'idée est bien d'évaluer toute la chaîne et de faire en sorte d'être en capacité, fort de ces évaluations, de rectifier certaines orientations, d'acheter des formations sur tel ou tel secteur de manière plus poussée, pour bien faire en sorte qu'on réponde aux besoins des territoires et des entreprises. Il y a un certain nombre de questions qui reviennent sur la formation. Je ne sais pas, Florence, si tu veux, notamment sur le PIC, effectivement.
Oui, sur le PIC, effectivement, dans la mesure où la compétence de la formation des demandeurs d'emploi reste entre les mains des régions, pour l'instant, rien n'a été remis en question sur cette compétence. Donc, la contractualisation, elle se fera bien entre l'État et les régions. Et Pôle emploi viendra et donc France Travail en opérateur pour décliner finement les contractualisations au niveau régional. Donc à ce stade, en tout cas, dans le processus, en tout cas, le processus ne changera pas, ou semble ne pas pour l'instant être annoncé différemment que ce qui avait été opéré sur la précédente contractualisation. Voilà, concernant le PIC, il y a d'autres questions.
D'autres questions, effectivement. Alors sur le SI commun et l'accès des opérateurs privés à ce SI, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse à ce stade, mais clairement, on considère que ça serait une logique pertinente, que de donner accès en tout cas de faire en sorte de mieux interconnecter la transmission des données entre tous les opérateurs. C'est déjà un peu ce que fait Pôle emploi, je pense notamment à la convention qui a été passée avec le secteur de l'intérim et certaines majors de ce secteur, où Pôle emploi donne accès à une partie de son fichier, alors dans le respect du RGPD, hein, évidemment, mais voilà, l'idée est de, comment dire, d'abattre les obstacles et de faire en sorte que les données circulent plus facilement et que quand une entreprise d'intérim a un besoin, elle puisse contacter directement certains demandeurs d'emploi qui ont accepté d'être contactés directement. Sur le niveau, sur pour revenir sur la gouvernance, notre implication au niveau départemental. Un commentaire il faut imposer notre présence sur la dimension départementale, car quid des cellules pilotées par les DDTES et les SPIE sur les services publics de l'insertion. Je savais que c'est une question, je me retourne vers Odile, mais il y a une question d'articulation et de est-ce que tout ça va remplacer les SPIE ou pas.
À ce stade, c'est pas du tout tranché. C'est-à-dire que les SPIE sont quand même des expérimentations. Enfin, ça n'a pas été, sauf erreur de ma part, généralisé. Les SPIE devaient, en tout cas, sur leur rapport d'expérience, alimenter justement les propositions de France Travail, hein, pour que sur le volet insertion, on tire les leçons de ces SPIE. Nous, à ce stade, on n'a que peu d'éléments sur ce qui se passe dans ces SPIE. On a assez peu de retours d'informations et il n'y a surtout aucune évaluation qui a été faite de ces dispositifs. Donc c'est une question qui, à ce stade, est ouverte.
Juste sur la gouvernance, effectivement, la place des partenaires sociaux, y compris au niveau départemental et infra-départemental, n'est quasi pas mentionnée, même pas mentionnée du tout. Les MEDEF départementaux, dans leurs actions, pas seulement en direction de leurs adhérents, mais plus largement d'ailleurs en direction des entreprises, est réel. Donc il s'agira de réfléchir dans les territoires qui seront préfigurateurs, de voir comment nous pourrions exprimer un rôle, une action aux côtés des autres acteurs de France Travail en local, parce que je crois qu'il y a des choses vraiment très concrètes et très opérationnelles qui sont déjà réalisées, sur lesquelles il faudra capitaliser.
Merci Florence. Effectivement, comme le mentionne Gauthier dans le chat, je pense qu'on peut passer à la dernière partie. Avant d'arriver aux prochaines étapes, juste un mot du financement. Petit sujet à 3 milliards d'euros, pour le dire un peu cash. Vous voyez à l'écran, enfin je viens de rappeler ce chiffre. L'évaluation qui est faite par la mission des besoins de financement complémentaires sur la période 2024-2026 est estimée entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros. Que j'arrondis peut-être de manière un peu audacieuse à 3 milliards, mais bon. À ce stade, on n'a pas de détails et c'est un point sur lequel on a demandé très fermement à avoir des données. Pas de détails sur les postes de coûts qui sont réellement impactés. Et encore moins sur les financements, les sources de financement mobilisables. Malgré tout, on peut lire assez facilement entre les lignes la dernière partie du rapport sur ce sujet, et on comprend qu'une augmentation de la contribution UNEDIC au budget de Pôle emploi est clairement sur la table. Tout ça fait évidemment le lien avec une éventuelle négociation à venir d'ici la fin de l'année sur la nouvelle gouvernance, enfin la remise à plat de la gouvernance de l'assurance chômage. Je rappelle, je le disais tout à l'heure en introduction, que tous les ans, l'UNEDIC verse 11% de ses recettes à Pôle emploi pour le financement de son budget, et ça représente 4/5 du budget courant de Pôle emploi. Et donc le calcul que je faisais assez simplement, c'est que le financement des cotisations employeurs représentant 2/3 des recettes de l'UNEDIC, tout ça revient à dire que les entreprises financent la moitié du budget de Pôle emploi. Donc
ce sera a priori toujours le cas demain pour France Travail, et voir un peu plus si l'UNEDIC est réellement mis à contribution et c'est bien. Ça pose plein de questions. Combien, comment, quelles conséquences sur notre implication dans la gouvernance, est-ce qu'il n'est pas aussi utile de revoir les modalités de calcul de cette contribution, l'asseoir strictement sur la masse salariale via les cotisations assurance chômage, ça revient ça revient complètement à dire que le budget augmente dès lors que la masse salariale augmente, et donc plutôt dès lors que la conjoncture économique est plus favorable. Et donc, en clair, on donne un budget plus important aux opérateurs du service public de l'emploi quand la conjoncture l'exige peut-être un peu moins. Donc, c'est un sujet qui sera traité vraisemblablement entre partenaires sociaux sous l'égide de l'État. La question reste malgré tout ouverte. Je reste très prudent sur ce sujet-là à ce stade. En tout cas, pour nous, c'est un point de vigilance majeur. Et à la fois sur le montant supplémentaire de financement et sur le pilotage et l'évaluation du retour sur investissement, si j'ose dire, de ces financements complémentaires. Juste bien préciser que ces 2,3 à 2,7 millions sur la période 2024-2026 sont présentés à ce stade comme des coûts entre guillemets one shot. Alors je reste là aussi très prudent sur la réalité de tout ça qui sera vérifié ou non, mais voilà, c'est juste pour bien dire que ça n'est pas un coût annuel sur la période 2024-2026, c'est un coût global qui sont essentiellement liés à des coûts de structure et à des coûts de mise en place de cette nouvelle structure. Et enfin, donc les prochaines étapes à court terme, France en parlait en introduction, un projet de loi donc plein emploi au Parlement et vraisemblablement d'abord au Sénat d'ici le mois de juin. Donc des concertations à venir courant mai sur les dispositions législatives incluses dans ce projet de loi s'agissant de la mise en place de France Travail. D'ici la fin de l'année, des négociations potentielles, ça reste aussi à confirmer, des conventions de financement. On pense notamment à la convention tripartite État Unédic Pôle Emploi France Travail et des conventions de partenariat avec les différents opérateurs. Et à plus long terme, la mise en œuvre concrète de toutes les propositions formulées dans ce rapport. Une première étape en 2024 avec la création effective de France Travail Opérateur qui remplacera normalement Pôle Emploi. Et puis jusqu'en 2027, des calendriers qui se chevauchent sur la mise en œuvre des différents services que nous vous avons présentés. Du point de vue du MEDEF, nous allons vraisemblablement réactiver le groupe de travail dont je parle en introduction, présidé par Karel Henry, dans le cadre de la DIMAD, du comité Inclusion par l'emploi et de la commission Éducation-Formation. Évidemment, des travaux dans le cadre des différentes instances de gouvernance des opérateurs, que ce soit Pôle emploi, l'APEC deux fois même, et la GFIP, sensibilité très forte sur l'APEC. C'est moi qui ai écrit ce slide, donc désolé pour cette erreur, je n'accuse personne, je tiens à le dire. En lien évidemment avec les territoires, et c'est un sujet qu'on a en tête, je me tourne vers Florence, notamment via le réseau des RFCRFP, il sera sans doute utile de voir comment on peut bien articuler, bien faire remonter les différentes problématiques. Il y a des expérimentations régionales qui vont être mises en place. Le rapport est sorti la semaine dernière, je pense qu'il faut qu'on se laisse un tout petit peu de temps dans les 2-3 prochaines semaines pour voir comment on va mettre en place ce suivi. Mais sachez qu'on a bien les deux dimensions à la fois sectorielle et territoriale en tête dans le déploiement de ces propositions. Et puis sans doute un nouveau webinaire d'ici la fin de l'année, du coup. je pense qu'on peut dire que c'était un premier épisode d'une longue série, je ne sais pas, mais en tout cas d'une série.
Thank you.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.